Bon lundi, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée, quoique un peu frisquet ce matin, puis une bonne partie de la journée aussi, ça a été extrêmement froid, mais pour ce qui est des prochaines heures, ça va se réchauffer. D'ailleurs, on nous annonce demain, si on réussit à atteindre le maximum, un genre de 16 degrés, donc on s'ostinera pas demain avec les enfants pour mettre leur manteau d'hiver, comme je l'ai fait moi ce matin avec mes deux boys à la maison. Chaque lundi, on a le plaisir d'être avec Maître Marc Bellemare de chez bellemareavocat.ca. Maître Bellemare, bonsoir.
Allô, ça va bien? Alors, le plaisir est pour moi, mon cher.
Ça va très bien. Vous passez un beau week-end?
Bien, certain.
Ouais.
Alors oui, j'ai eu beaucoup de plaisir en fin de semaine, même si on avait une température so-so. Mais oui, beaucoup de bonheur rencontré. J'ai gardé mon petit-fils, un de mes petits-fils, parce que là, je vais me bomber le torse un peu. J'ai deux petits-fils, alors même trois. Même trois petits-fils, il y en a deux qui ne marchent pas, puis il y en a un qui marche, mais j'ai gardé celui du milieu.
Ouais.
Il y a 9 mois, il est sur le bord de marché. Là, il brasse pas mal la cabane. Là, il déménage souvent la cuisine au salon et le salon à la cuisine.
Oui, mais papy et mamie, je pense que c'est une des plus belles jobs parce qu'on a les petits-enfants une fois de temps en temps, puis quand on est tanné, ben, les parents peuvent les reprendre, malgré...
Oui, moi, j'ai dit à mon fils vendredi, es-tu disponible? Alors là, bon, j'ai vérifié mes disponibilités, j'ai dit oui, mais j'ai dit entre 6 et 9. Ah, tu sais, je mets des heures. Tu sais, moi, je suis habitué comme avocat d'avoir des heures.
Oui, ben oui.
J'ai tant de temps. Quand on commence, on a tant de temps. Comme aujourd'hui, on a une heure.
Exact.
Alors, tu sais, comprends-tu? On est très serré dans nos horaires, on est habitué, on est formé comme ça. Mais ça se transporte dans ma vie personnelle aussi. Je disais 6 à 9, c'est correct. Alors, ça va. Puis, généralement, c'est respecté. Parce que sinon, ça finit plus. Parce que, tu sais, les parents, évidemment, moi, j'ai eu 5 enfants, je le sais. Là, quand tes parents, ben, à un moment donné, t'as besoin d'air. Fait que si t'as un grand-parent, un grand-père, une grand-mère qui est disponible, ben, écoute, ben, tu t'en sers. Tu sais, c'est normal. Ça te donne de la liberté.
Ben oui.
La seule liberté que t'as, c'est un peu ça. C'est sûr que tu as toujours la petite gardienne de l'autre bord de la rue qui peut venir de temps en temps, mais ça ne remplace jamais un grand-père. Ça, c'est sûr.
Exact.
Alors,
exact.
On est disponible, mais en même temps, il faut mettre des limites.
T'sais. C'est ça, c'est ça. Hey, il y a un dossier qui est possiblement clos aujourd'hui, un dossier qui date de 2015, je pense, de mémoire que vous avez été impliqué, mais peut-être que vous saurez me reprendre, Maître Bellemare. C'est la policière du SPVQ, Isabelle Morin, qui avait été impliquée dans un accident... sur Laurentienne en 2015. Elle a tué, elle, le motocycliste Jesse. C'est Jesse Drolet, c'est ça?
Jesse Drolet qui s'en venait avec sa moto, puis on ne savait pas trop si c'était Jesse ou si c'était Mme Morin qui était responsable de l'acte criminel. Et finalement, elle avait été, dans un premier temps, acquittée.
Oui.
Et je crois qu'elle a été condamnée dans un deuxième temps.
C'est ça. Ça fait 9 ans que ça dure, cette cause-là, en justice. C'est extrêmement long. La femme de 53 ans qui a pris ce matin le chemin des cellules, menotte au poing, elle a été condamnée par le juge d'amour à 1 an de prison, en plus d'une interdiction de conduire de 24 mois. Et en 2015, ce qui s'était passé, c'est que l'autopatrouille qui était conduite par Isabelle Morin a fait une manœuvre assez particulière de virage à gauche entre des cônes dans une zone de travaux sur l'autoroute Laurentienne. Puis elle voulait repartir en sens inverse pour ne pas avoir à faire 5-6 sorties plus loin. Faut dire qu'elle était... Il y a Laurentienne Nord, Laurentienne Sud et Laurentienne Nord était en réparation, ce qui faisait en sorte que les deux voies étaient sur Laurentienne Sud. Et donc, elle qui virait vers qui allait vers le nord a voulu prendre la sortie qui n'était pas une sortie pour elle. Donc, elle a ralenti à 11 km/h. Elle a mis les gyrophares puis elle a décidé d'y aller quand même parce qu'elle voulait sauver un peu de temps pour aller à la station de police. Et malheureusement, il y avait Jesse Drolet qui arrivait sens contraire, qui s'attendait pas à avoir un véhicule de police couper le chemin comme ça sur l'autoroute à la dernière seconde, qui a eu un impact avec le véhicule de la policière. Et malheureusement, ben, il est décédé. La mère de Jesse Drolet, depuis 2015, elle est détruite. J'aurais aimé lui parler ce matin pour savoir comment elle prenait cette décision-là. Mais elle avait mentionné dans les médias, ça m'avait marqué, Maître Bellemare. Elle m'avait dit, j'ai tout perdu ce que j'avais dans la vie, c'est-à-dire un fils.
C'est, oui, c'est, Mme Drolet.
C'est d'une tristesse. Avez-vous été impliqué dans ce dossier-là?
Ben moi, j'ai reçu en entrevue à quelques reprises la mère de Jesse Drolet à l'époque, parce qu'elle m'avait consulté pour les indemnités, parce que, évidemment, Jesse a eu, compte tenu qu'il est décédé sur la route, post-mortem, si tu veux, là, certaines prestations qui lui étaient attribuables. Donc, c'est la mère qui a eu ces sommes-là. Et elle voulait savoir si elle était admissible aux indemnités. Elle ne l'était pas parce qu'elle n'était pas présente au moment de l'événement, puis elle n'a pas vu l'événement comme tel. Elle est arrivée après l'événement. Alors, je l'ai eue comme, comme cliente pendant un certain temps. Une dame fantastique qui a perdu son seul fils. Hein?
Oui.
Et évidemment, elle vit des angoisses épouvantables. Puis malheureusement, la loi de la SAC, qui s'applique à tout le monde, sauf à la mère, n'est pas applicable à son cas. Elle ne peut même pas, à cause que c'est un accident de la route, elle ne peut même pas poursuivre la police de Québec ou la ville de Québec pour les erreurs de sa conductrice. Je dis bien erreur. Ça a été considéré comme une erreur criminelle.
C'est
mais
carrément un manque de jugement.
Ça peut être simplement une erreur civile, une faute. Mais même s'il y a faute civile, une faute simple à 50 %, ça ne donne pas ouverture à quelque recours que ce soit de la part de la mère. Oui.
Est-ce que, selon vous, 12 mois de prison ferme, c'est suffisant pour quelqu'un qui a causé la mort d'une autre personne? Puis on s'entend tous pour dire que c'était pas le but recherché là, quand t'es policier de tuer quelqu'un, surtout quand il s'agit d'une erreur de jugement comme ça. Est-ce que 12 mois, c'est assez sévère, selon vous? Il me semble que c'est pas beaucoup pour avoir enlevé la vie à quelqu'un.
Non, mais moi, jamais on va me faire dire que c'est assez sévère parce que je trouve que la plupart des peines ne le sont pas assez. Mais ça, c'est une question philosophique, une question idéologique peut-être aussi. J'ai toujours trouvé que notre système de justice criminelle au Canada était beaucoup trop tolérant pour les accusés quand ils sont simplement accusés et pour les criminels quand ils sont condamnés. On est beaucoup trop tolérant, mais là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Avec le gouvernement Trudeau à Ottawa, c'est encore pire avec les lois 75, les lois 5, qui permettent, dans beaucoup de cas, des peines dans la communauté. Non, je trouve que c'est pas assez, mais ça fait partie, si tu veux, des hypothèses, de ce qu'on appelle la fourchette, là, c'est-à-dire à l'intérieur de laquelle la Cour suprême et la Cour d'appel disent, mais là, ça peut varier de temps à temps, puis le juge a une certaine discrétion pour fixer cette peine-là, ou bien la couronne peut s'entendre avec la défense pour fixer cette peine-là. Dans certains cas. Alors, c'est correct, mais c'est sûr que c'est pas assez. Mais on dit toujours, ça nous ramènera pas Jesse. C'est bien sûr, mais c'est pas ça la question. La question, c'est quel est le message qu'on envoie à la population.
Exact.
Et dans quelle mesure la peine qu'on retient va être dissuasive, va être exemplaire et va permettre aux citoyens que nous sommes d'avoir confiance dans cette institution que constituent les tribunaux. Puis je trouve que 12 ans, c'est vraiment le seuil le plus bas qu'on puisse imaginer, compte tenu de la négligence criminelle causant la mort, c'est quand même important. Peut-être qu'on peut plaider que pour cette policière-là, elle a eu tellement de publicité, puis de l'affaire a été tellement notoire, mais en même temps, on peut argumenter à l'inverse qu'elle est policière, puis qu'elle représente la loi, puis qu'elle représente l'autorité suprême au niveau justice et sécurité publique. Et que dans ce sens-là, elle doit faire preuve d'un comportement qui est encore plus exemplaire que le citoyen moyen. Alors, un dans l'autre, 12 mois, non, c'est mon avis, c'est vraiment le minimum qu'on pouvait espérer.
Donc, 12 mois de prison ferme, elle va être sous protection, bien entendu, à l'intérieur des murs de la prison. Et par la suite, lorsqu'elle sortira, il va y avoir un 24 mois où elle ne pourra pas conduire. Et ce matin, je parlais avec un avocat, et l'avocat m'a souligné qu'elle pourrait peut-être, si elle le désire, advenant le cas où elle aurait besoin de son véhicule pour travailler, demander une permission spéciale pour pouvoir avoir une voiture pour aller travailler. Et le soir, ben là, elle devra être à la maison, elle ne pourra pas conduire. Et même chose pour ce qui est de la fin de semaine, si ce n'est pas pour son travail. Elle ne pourra plus jamais être policière ni faire un travail qui demande de ne pas avoir de casier judiciaire. Parce que maintenant, elle est reconnue comme étant une criminelle. OK, autre sujet que je voulais aborder avec vous, le dossier d'Éric Lefebvre, qui était le whip de la coalition Avenir Québec, qui a décidé, lui, qu'il devenait député indépendant parce qu'il se lance maintenant sur la scène fédérale. Ce matin, je parlais avec... ce midi, je parlais avec Éric Duhaime. Il a fallu que je me reprenne par trois fois pour avoir une réponse de la part d'Éric Duhaime concernant Éric Lefebvre. Je ne comprends pas comment le gars peut continuer à avoir un chèque de l'Assemblée nationale tout en se préparant pour les élections fédérales. Ça ne me rentre pas dans la tête. Moi, je suis de droite économique. Je suis pour le plus souvent la non-intervention de l'État, un plus petit gouvernement. On fait attention à l'argent des contribuables, puis on laisse plus d'argent dans les poches des contribuables parce qu'on considère qu'eux sont capables de gérer leur argent, contrairement au gouvernement qui le dilapide. Et de voir que le Parti conservateur semble à l'aise avec ça, qu'Éric Lefebvre puisse conserver son emploi au fédéral tout en faisant sa petite campagne, son argent à l'Assemblée nationale, tout en faisant sa petite campagne au fédéral. Je trouve ça juste hallucinant qu'on accepte ça.
Ben, c'est sûr que sur le choix politique, moi, je suis tout à fait d'accord avec Lefebvre parce qu'il n'est pas fou non plus. C'est un ancien candidat conservateur au fédéral.
Oui.
Je pense que c'est en 2008 qu'il a été candidat conservateur, en tout cas, il me semble, ou peut-être 2016, en tout cas. Peu importe, il avait déjà été candidat. Puis c'est sûr que lui, il voit le bateau qui coule avec Legault. Là. Il ne voit pas d'espoir d'amélioration. Probablement qu'il y a des sondages maison dans le comté d'Arthabasca qui lui montrent que s'il était demain matin sur les rangs de la coalition Avenir Québec, il arriverait probablement deuxième ou peut-être même troisième. Fait qu'il s'en irait avec Poilievre, ce qui est pas de mauvaise idée. La question de savoir son salaire de député, ben c'est sûr que ça peut soulever. Je sais qu'il y a eu des chroniqueurs la semaine dernière qui ont soulevé la question. Même José Legault, je pense, dans le Journal de Québec, a dit que M. Lefebvre devrait démissionner de son poste pour pouvoir se consacrer à... Ben, oui, c'est une idée, mais en même temps, je me dis, peut-être qu'il donne la même qualité de service à ses électeurs. Penses-tu que tu peux être candidat conservateur au fédéral dans un an et demi, puis en même temps que ça, nécessairement, ça te rend non disponible pour servir tes concitoyens. Ouais. Moi, ce qui m'importe, là, c'est qu'il y a un député à l'ouvrage dans le comté d'Arthabasca pour les fonctions québécoises.
Parce qu'il va y avoir des partiels, qui partent demain ou qui partent peut-être quelques jours avant le début des élections. Il va y avoir une partielle quand même dans son comté. Donc, le 6 à 700 000 $ qu'il va nous coûter en plus, c'est sûr et certain que ça va être là ou peut-être dans un an et demi, mais techniquement, je comprends qu'il y a le droit de le faire. Puis je pense possiblement que c'est pour des raisons financières qu'il reste à l'emploi de l'Assemblée nationale, parce que s'il était indépendant de fortune, il pourrait quitter sans aucun problème. Moi, je pense qu'il veut le chèque jusqu'à temps qu'il puisse transférer pour le fédéral puis avoir l'autre chèque. Tu sais, il voudra certainement pas...
C'est ce que Mme Legault disait.
Ben oui, c'est ça. Ben...
José Legault, la semaine passée, chroniqueur du Journal de Québec, disait qu'il devrait démissionner parce qu'il va se consacrer à la campagne électorale fédérale de M. Poilievre. Bon, je sais qu'il y a un dénommé Mathieu Ouellet qui est organisateur pour l'ensemble du Québec. En tout cas, c'est ce que M. Poilievre avait laissé croire dernièrement. Il s'occupe, semble-t-il, de l'ensemble du Québec. Il y a des organisateurs un peu partout qui s'activent pour Pierre Poilievre au Québec. Il va développer une organisation redoutable. Lui, ce qu'il veut, c'est battre des records en termes de comté. Tu te souviendras que Brian Mulroney, je pense, avait eu le record. Les conservateurs avaient fait élire 58 députés en 1984. Puis M. Poilievre, je pense qu'il vise à obtenir au moins ça à l'élection de 2025. Mais moi, je te le dis, là, c'est ça ma question, c'est ça ma réticence. Parce qu'en même temps, Lefebvre consacre du temps dans son comté et qui décide de consacrer aussi du temps au Parti conservateur, mais si je sais qu'il consacre le même nombre d'heures à ses électeurs, parce qu'en étant plus whip, là, oublie pas, Yannick, que s'il est plus whip, il y a une fonction parlementaire de moins à Québec.
Mm-hmm.
Alors, il est député quand même de son comté, mais le fait d'être whip, ça l'obligeait probablement à consacrer peut-être 20-25 heures de son temps à gérer l'ensemble du caucus caquis. Parce qu'un whip, c'est quoi? C'est un père fouetteur. C'est le député qui s'occupe de la discipline dans le parti puis qui appelle le député pour dire « Hey, t'étais pas là pour tel vote, puis on te voit plus, puis tu as fait telle erreur, puis il y a tel collègue qui s'est plaint de ton attitude. C'est un petit peu ça. C'est une espèce de grosse garderie, là. Puis lui, il s'occupe de gérer le caucus pour faire en sorte que tout le monde soit correct, convivial, puis que les députés fassent leur job. Là, il n'est plus whip. Alors, je ne sais pas si c'est le travail de whip qu'il faisait, qu'il a transféré comme conservateur. On ne saura jamais le nombre d'heures qu'il peut consacrer, mais moi, si c'est un député qui est à l'ouvrage dans Arthabasca, Yannick, là, puis s'il fait son travail, puis qu'il fait du bureau de comté, puis qu'il répond à ses électeurs, qu'il intervient auprès des différents organismes publics pour que ses électeurs soient bien servis. Parce que là, il a gardé des contacts avec la CAQ, là. Il est encore député, il ne s'est pas chicané. Alors, s'il va chercher des subventions, puis s'il va chercher des bouts de route, puis s'il va chercher des services publics dans Arthabasca, aujourd'hui, c'est difficile de dire il devrait démissionner. Je ne sais pas.
C'est le fun. C'est rare qu'on
démissionne dans une élection partielle de suite. Là.
C'est rare qu'on est en désaccord là-dessus, Maître Bellemare, mais moi, je vais tenir mon bout. Si quelqu'un est dans son comté puis il veut se présenter aux élections fédérales puis il est plombier, il n'y aura pas la même visibilité que l'autre qui est à l'Assemblée nationale, qui se promène puis qui peut rendre des services encore dans son comté. Il y a comme un avantage. Là. Il y a un débalancement là, au niveau de l'égalité pour ce qui est de la course à la députation de ce secteur-là. Donc, le gars, il est bien en vue, il va accorder des entrevues avec des journalistes, il va même se prononcer sur les décisions fédérales pour son futur parti, tout à la radio peut-être, en tant que député du coin provincial. L'égalité n'est pas là, là. T'sais, tandis que le plombier...
Est-ce que tu as répondu à M. Duhaime là-dessus?
Éric, il a essayé de se sauver. Il m'a dit, tout ce que je peux faire, c'est demander à Lefebvre de te contacter pour une entrevue. Mais tu sais, il ne voulait pas. C'est une patate chaude, là. Éric Lefebvre, il vote pour qui aujourd'hui? S'il y a des élections provinciales, là, il vote-tu pour François Legault ou bien il vote pour Éric Duhaime?
Ah oui. Ben moi, quand j'ai vu le titre la semaine passée, je pensais qu'il allait au Parti conservateur du Québec.
Ben moi aussi.
C'était le Parti conservateur du Canada.
Oui, c'est ça,
parce
moi aussi.
Je pensais que c'était un transfuge qui allait avec Duhaime, qui était devenu la nouvelle Madame Samson, tu sais.
Oui. Mais c'est pas ça. Moi aussi, j'ai eu cette réflexion. Je me disais, Éric a réussi à en séduire un. C'est pas
à
ça.
À débaucher un député de la CAQ.
Mais mon point pour ce qui est d'Éric Lefebvre, c'est qu'il doit démissionner. Parce que il veut se présenter au fédéral, puis il doit démissionner maintenant. Il faut que la partielle ait lieu maintenant. Puis quand les élections seront déclenchées, ben ça va être l'égalité pour tout le monde pour se présenter dans ce comté-là. Mais cela dit, vous avez d'excellents points, Maître Bellemare, comme d'habitude.
Ben là, je vais te dire, moi, je suis convaincu que moi, j'ai regardé la sortie de M. Lefebvre la semaine dernière. Je pense que c'est la semaine dernière, ou en tout cas un petit peu plus la semaine dernière, mais d'après moi, ça ne date pas plus que 7-8 jours. La sortie a été conviviale avec M. Legault. As-tu remarqué? M. Legault était bon. Merci, Éric, pour le travail que tu as consacré à ton comté, pour la CAQ, et merci, et merci, et merci. Ça veut dire que M. Lefebvre s'est présenté au bureau du premier ministre. Il a dit: je quitte, je serai candidat conservateur à la prochaine élection. Je conserve mon siège, je vais siéger indépendant parce que le whip, il est au Conseil des ministres. Là. Il n'est pas juste dans le caucus de la CAQ, il assiste au Conseil des ministres. Il est dans le Saint-Graal, il est dans le Saint des Saints. Il entend tout ce qui se passe au Conseil des ministres, qui est là où toutes les décisions significatives se prennent pour le gouvernement du Québec. C'est pas rien, là. Mais là, ils se sont laissés de façon très conviviale, très polie, très courtoise. C'est simple. Comprend que ça fait l'affaire de Legault parce qu'il n'y aura pas de partiel avant l'élection fédérale, avant l'automne ou l'été tard ou l'automne 2025, à moins qu'on ait une au printemps, mais d'après moi, ça va aller à l'automne parce que Trudeau n'est vraiment pas en position ou son éventuel successeur d'aller en élection immédiatement. Mais besoin d'une élection partielle dans Arthabasca comme une balle dans la tête.
Oui, c'est ça. Il y aurait peut-être eu entente avec la CAQ à ce niveau-là, M. Bellemare.
Ben, c'est sûr. Ben oui, il n'y aura pas de partielle parce que c'est sûr qu'il va la perdre, la partielle.
Mais vous auriez dû dire ça. Vous auriez dû dire ça au début, ça. C'était pertinent, ça.
Dans les comtés francophones, dans les Saint-Hyacinthe, ouais. Arthabasca, Drummondville, Thetford, les comtés francophones du centre du Québec, à mon avis, la CAQ, là, il n'y a pas d'élection possible. Un candidat péquiste va être élu. Écoute, dans Jean Talon, c'est 10 000 voix de majorité. As-tu pensé?
Oui.
C'est énorme
c'est
comme défaite.
C'est une raclée.
Un comté qui n'a jamais été péquiste.
Exact.
C'est la première fois qu'il est péquiste avec M. Patrick...
Paradis, bon. c'est pas Patrick Paradis. Paradis c'est... je perds son nom, mais c'est Paradis. Le député Paradis, tiens.
Oui, le député Paradis. Alors, c'est sûr que... Moi, je pense que dans Arthabasca, les sondages sont très mauvais. Puis, mais le fait qu'il reste là, à mon avis, ça fait l'affaire de tout le monde. Fait que si ça fait l'affaire de tout le monde au niveau parlementaire, fédéral, provincial, le député en question, ben là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il va rester là, d'après moi. Mais je te le dis, là, moi, pour moi, le critère le plus important, au-delà de l'élément éthique, tu as raison. C'est certain que ça soulève des questions. Mais moi, ma préoccupation, c'est de savoir. Si je suis un électeur de Sainte-Séraphine, moi, tout près d'Arthabasca, puis que je suis un producteur de porc, puis que je veux parler à M. Lefebvre pour qu'il s'occupe de mon dossier avec le ministère de l'Agriculture, ça va-tu répondre à l'autre bout de la ligne? Si ça répond à l'autre bout de la ligne, que le député est présent, puis qu'il fait son travail pour servir ses 40, 50 000 commettants provinciaux, ben c'est correct. Mais ça, on ne saura jamais, à moins que. Qu'on l'évalue de façon précise, ce dont je douterais, mais pour moi, c'est ça le critère le plus significatif.
Pascal Paradis, Maître Bellemare. Pascal
Pascal.
Paradis. On avait perdu son
Désolé
prénom.
pour Patrick.
Ouais, c'est ça.
C'est pépé dans tous les cas.
Exact.
Comme Pierre Poilievre.
Est-ce que François Legault aurait intérêt à devancer une course à la chefferie, Maître Bellemare, pour donner peut-être espoir aux députés qui sont en place ou peut-être d'autres personnes qui voudraient se présenter à la députation d'embarquer avec la Coalition Avenir Québec? Parce que là,
Oui,
de
mais.
retarder l'annonce de son départ, on dirait que ça aide pas la CAQ, là.
La réponse, c'est oui, à mon avis. Je pense que M. Legault, il est à bout. Il est aigri. Il a le front plissé. Il est irritable. La seule fois que je l'ai vu sourire, je pense, depuis l'histoire de la défaite d'Jean Talon, c'est quand que PSPP a fait sa montée de lait à l'Assemblée nationale. Qui était bien content d'y avoir accolé l'étiquette du gars Sopolet. C'est, à mon avis, une niaiserie, là. Écoute, moi, quand quelqu'un répond pas à mes questions, je ferme le livre et je sac mon camp, là. Il a fait la même affaire. Bon, en tout cas, moi, je trouve que c'est un peu niaiseux, mais la CAQ est tellement pressée de définir l'image de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui essaie toutes sortes d'étiquettes pour essayer de le discréditer. Moi, en tout cas, dans ma tête, à moi, ça n'a pas collé. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas fait un peu de chemin dans l'opinion publique, mais tu sais que, écoute, je trouve ça assez curieux que ce soit M. Legault qui accole l'étiquette de soupe au lait à Paul Saint-Pierre Plamondon, quand on sait très bien que M. Legault lui-même est un exemple parfait de soupe au lait. S'il y a un gars qui pète sa coche, c'est bien lui.
Ouais,
Et
hein.
il l'a très souvent démontré. Lucien Bouchard était comme ça aussi. Jean Charest n'était pas comme ça. Bernard Landry était comme ça. Alors, c'est le lot de la plupart des chefs de parti. Ces gars-là vivent une pression terrible. Et la dernière fois que j'ai vu sourire M. Legault, c'est la semaine passée, quand il a sorti ce chapeau-là, que M. Paul Saint-Pierre Plamondon avait quitté précipitamment l'étude du ministère du Conseil exécutif que préside M. Legault. Ceci étant dit, je pense que M. Legault devrait quitter. Parce que sinon, là, c'est sûr qu'il reste encore un certain délai. Il peut penser à l'automne, il peut penser au printemps prochain. Moi, je pense qu'à l'automne, s'il s'en va pas maintenant, il va faire un remaniement ministériel important pour essayer de relancer son parti en vue de la fin de l'année 2024. Puis 2025, probablement qu'il va commencer à quitter parce que là, on va être rendu dans la deuxième moitié de son mandat. On va être sur le descendant, puis là, il va falloir qu'il pense à quitter parce que c'est clair pour moi qu'il se représentera pas pour un troisième mandat. Maintenant, tu regardes ce qui se passe avec Trudeau au fédéral, là. Il colle, il colle, il colle, il part pas. Il part pas, il fait un deal avec le NPD pour rester collé au pouvoir comme un gouvernement majoritaire. Puis le deal est tellement fort qu'on a l'impression que c'est le NPD qui est au pouvoir à Ottawa. Puis là, Trudeau baisse, baisse, baisse dans les sondages. Puis à un moment donné, il colle tellement longtemps qu'il donne pas l'opportunité à son gouvernement, à son parti, de se trouver un nouveau chef dans un délai raisonnable avant les élections.
Exact.
Et ça, c'est un problème parce que, tu sais, une campagne à la chefferie, même si tu es au pouvoir, une démission, campagne à la chefferie, congrès, désignation du prochain leader, le temps qu'il se fasse connaître, qu'il arrive avec certaines politiques, certains engagements, qu'il montre jusqu'à quel point il peut se défendre puis promouvoir ses idées à la Chambre des communes ou à l'Assemblée nationale, ça prend du temps. Tu n'as pas assez d'un an pour faire ça. Fait que s'il attend trop longtemps, il ne donnera pas l'opportunité à son successeur ou à sa successeur de se manifester puis d'aller chercher assez de crédibilité pour être élu puis garder son parti au pouvoir. C'est ce qui risque d'arriver avec Trudeau. Il prend tellement de temps que même s'il partait au mois de mai ou juin, là, le temps d'avoir une campagne à chefferie à l'automne prochain, On est déjà rendu au printemps, ça va vite, là. Puis tu n'as pas le temps de remonter d'un sondage parce que tu n'as pas le temps de te construire une crédibilité
Exact.
De premier ministre. C'est ce qui est arrivé avec Daniel Johnson, fils, qui s'est retrouvé avec un. Qui a été battu aux élections. C'est ce qui est arrivé avec Pierre-Marc Johnson quand il avait succédé à René Lévesque, qui a été remplacé par Robert Bourassa. Les libéraux ont été élus. Bernard Landry n'a pas toffé devant Charest aussi. Alors, tu sais, les remplaçants de premier ministre élus, là, c'est rare qu'ils sont réélus pour un autre mandat, même que je n'ai pas d'exemple en tête. La plupart sont battus. Puis précisément, souvent, parce qu'ils attendent trop. Comme Mulroney a attendu trop avant de partir. Il a été remplacé par Kim Campbell. Kim Campbell n'a pas eu assez de temps pour se faire une crédibilité. Elle a été battue par Jean Chrétien. Et c'est souvent ça qui arrive. Puis là, si Legault attend trop, ben c'est sûr que c'est tentant de rester là, mais moi, je pense que son chien est mort, Legault. Je pense pas qu'il réussisse à se refaire une crédibilité. Les gens sont écœurés.
Puis les aspirants.
D'autres promesses rompues.
Oui, puis les aspirants au trône, il y en avait beaucoup au départ, mais là, on s'aperçoit que Geneviève Guilbeault, dans son propre comté, ne gagnerait pas ces élections. L'autre côté, Bernard Drainville, l'autre bord du fleuve, ça va pas nécessairement bien non plus de son côté. Fitzgibbon, je pense qu'à 70 ans, il va penser à d'autres choses là, pour ce qui est du prochain mandat. Il va rester qui? Simon Jolin-Barrette, lui, de son côté, je suis pas sûr que ça pourrait peut-être l'intéresser, la chefferie de la Coalition Avenir Québec. Il reste pas grand monde avec du charisme à la Coalition Avenir Québec qui pourrait prétendre au trône.
Bien, il y a des ministres qui sont beaucoup moins en vue. Les ministres qui ont été beaucoup vus, là, comme tu as parlé de Fitzgibbon, tu as parlé de Jolin Barrette, des fois, plus tu es vu, plus tu es détesté aussi. Tu peux faire des bons coups, mais plus tu es détesté aussi. Comme Drainville, il est des nouvelles à tous les deux jours. Des fois, on finit par se tanner.
Ben, il y a tout le temps de l'air à bout. Il y a tout le temps de l'air fatigué et à bout.
On se dit, on peut-tu voir quelqu'un d'autre? Mais tu sais, je pense à Sonia Lebel, qui est au Conseil du Trésor, qui est une fille qui a une bonne crédibilité,
oui.
Mais en même temps, elle est relativement secrète. On la voit presque pas. On l'a vu un petit peu pendant les négociations, mais elle est très, très discrète. Alors ça veut dire qu'elle n'a peut-être pas assez de visibilité pour se développer une crédibilité. Elle en a une. Mais elle gagnerait peut-être à être connue davantage. Mais alors, ou bien non, t'es pas assez vu, ou bien non, t'es trop vu. Mais effectivement, Mme Guilbeault, le troisième lien qui colle encore, la promesse rompue qui a permis à Martine Biron et à Drainville d'être élus dans la chute de la Chaudière et dans Lévis, qui sont, à mon avis, deux comtés volés littéralement, parce que c'est Drainville et Biron ont été élus sous de fausses représentations, sous le sujet du troisième lien qui n'a jamais été livré. Et ça a donné la défaite sanglante dans Jean Talon. Alors, je ne sais pas si Drainville, pour moi, là, il a perdu beaucoup de crédibilité dans ce dossier-là. Puis le troisième lien, ça va coller. Tu demeures sur la rive sud, là. Moi, je demeure sur la rive nord, mais je rencontre des gens qui sont de la rive sud. Les gens de Lévis, chute de la Chaudière, ils sont tous encore aujourd'hui en colère. Et quand quelqu'un me parle de leurs députés, ils ne sont pas fiers parce qu'ils ont été trahis par le troisième lien. Est-ce que ça va revenir avec ce que la Caisse de dépôt va nous amener sur le tramway et ces affaires-là? Je ne sais pas. Mais je pense que le mal est fait. Puis ce gouvernement-là a perdu toute crédibilité sur ces sujets-là. Alors, c'est sûr que ça va entacher la crédibilité d'éventuels candidats à la chefferie qui pourraient vouloir succéder à M. Legault.
Parliez de Simon Jolin Barrette tout à l'heure. Vous vouliez nous parler de vivre ensemble sans être marié avec notre fameux site Éducalois, le gouvernement qui a fait quelques modifications au régime d'union parentale.
Oui, ils veulent faire des modifications, mais je pense que ça serait pour une entrée en vigueur quelque part en juin 2025 parce que c'est sûr qu'actuellement, les conjoints qui sont pas mariés n'ont pas de statut entre eux. Là. Tu peux pas demander de pension alimentaire si tu te sépares d'un conjoint de fait.
On peut le faire pour les enfants, bien entendu, mais elle ou lui ne peut pas demander une pension alimentaire dans le cas où l'autre personne a un salaire plus élevé. Puis on va prendre un exemple. On va prendre les gens de notre génération, puis votre génération à vous, Maître Bellemare. Les gens qui étaient mariés, si la dame décidait de rester à la maison où il y avait une entente conjointe avec le mari travaillait, il partait son entreprise entreprise, développait son entreprise, ben quand il y avait séparation, ben il y avait une partie de l'entreprise qui appartenait à madame. T'sais, parce que madame a contribué au patrimoine familial, monsieur a développé son entreprise, puis madame ben, s'occupait du foyer familial. Donc, quand on était mariés, les femmes étaient protégées, mais ils pouvaient demander une pension alimentaire pour elle. Puis les gens devaient avoir le même niveau de vie aussi. Autant l'homme que la femme, dans chaque foyer, les enfants devaient avoir le même niveau de vie. Mais si vous étiez conjoint de fait, il pouvait y avoir une pension alimentaire pour les enfants, mais pas nécessairement pour l'homme ou la femme qui décidait de rester à la maison.
Oh oui, c'est ça. Mais là, c'est ça. Alors, il y a beaucoup de concubins actuellement. La plupart, je pense, des couples actuellement ne sont pas mariés. Il y en a encore qui se marient, mais c'est quand même pas de majorité. Alors, le conjoint de fait ne bénéficie pas de protection. Alors, le gars gagne 200 000 piastres par année, la fille en gagne 40 000. Ça fait 10 ans qu'ils vivent ensemble. Ils ont des enfants ou ils n'en ont pas. Ça ne change rien. Madame n'a pas de droit d'obtenir une pension alimentaire de la part du conjoint. C'est pas compliqué. Si tu n'es pas marié, tu n'as pas d'union civile, le conjoint de fait ne bénéficie pas de la protection au niveau de la pension alimentaire. Aucun cas de pension alimentaire. Les enfants, eux, ont droit à une pension alimentaire. Et si c'est madame qui garde les enfants, qui a la garde légale des enfants, va pouvoir demander une pension alimentaire au conjoint plus fortuné pour le bébé, pas pour elle. Pour elle, c'est zéro, mais pour le bébé, c'est possible. Il ne faut pas mêler les deux. En cas de décès, le conjoint de fait n'a pas droit à rien, à moins qu'il soit sur le testament du conjoint décédé. Mais ça, c'est pas nouveau, là. Dans ton testament, tu peux mettre n'importe qui. Tu peux mettre le conjoint, la conjointe, mais tu peux mettre quelqu'un d'autre aussi. Alors, il n'y a pas de droit automatique pour une succession ab intestate, qu'on appelle en bon français, c'est-à-dire quelqu'un qui meurt sans testament. Le conjoint est avec le monsieur depuis 20 ans. Pas une scène. Il faut être marié pour avoir un montant d'argent au niveau du testament, du décès sans testament. La prestation compensatoire, c'est un peu la même chose. Ça prend des conjoints mariés. Prestation compensatoire, c'est cette espèce de travail que tu as fait pendant que tu étais en union conjugale avec quelqu'un. À ce moment-là, tu peux dire, je vais demander, parce que j'ai contribué à l'enrichissement du conjoint qui a fait qu'il y a une business puis qu'il y a de l'argent, puis moi, j'ai contribué parce que j'ai gardé les 4 enfants pendant que lui faisait de l'argent. Tu peux pas demander une prestation compensatoire qui va compenser pour l'apport à l'enrichissement de l'autre si tu n'es pas marié. Au niveau du patrimoine familial, c'est exactement la même chose. Fait que, à moins que tu aies un contrat avec le conjoint, puis ça, c'est possible de le faire. Tu peux faire n'importe quel genre de contrat, un contrat de vie commune, avec un conjoint avec qui tu demeures. Il y a beaucoup de femmes qui vont hésiter de faire ça parce que le gars peut peut-être penser « tu ne me fais pas confiance, puis tu sais bien que je ne t'abandonnerai pas, ça va bien quand tu es en amour, ça, mais quand la chicane pogne, c'est vite mis de côté, puis un contrat verbal dans ce domaine-là, ça n'existe pas. » Alors, c'est sûr qu'il y a des lois sociales, il ne faut pas tout mêler. Là. Ça, ce que je viens de dire, c'est les droits civils entre les conjoints. Parce que si, par exemple, monsieur demeure avec une conjointe depuis au moins 3 ans et qui décède dans un accident de travail, bien, la conjointe va être considérée comme étant conjointe à charge, même s'ils ne sont pas mariés. Si madame décède dans un accident de la route, le conjoint qui vivait avec elle depuis 3 ans va avoir droit à un montant d'argent de la part de la SAC. Ça, c'est des lois sectorielles. C'est des lois précises. La Régie des rentes, il peut y avoir aussi des mécanismes comme ça, conjoint survivant. Mais toutes ces lois-là au Québec exigent pour avoir une indemnité en cas de décès, que tu aies au moins 3 ans de vie commune, sans enfant, ou 1 an si tu as un bébé. Alors, c'est sûr que si ça fait 8 ans que tu demeures avec le même conjoint de fait, vous n'êtes pas marié, tu vas pouvoir avoir une indemnité si jamais il y a un accident de travail ou un accident d'auto, mais tu n'auras pas le droit d'exiger du conjoint au moment d'une séparation un certain montant. Fait que M. Jolin Barrette a présenté il y a quelques semaines, un projet de loi qui serait un petit peu plus accommodant pour le conjoint. Mais on parle là de possibilité que ça soit en vigueur peut-être pour l'été 2025. Et ça voudrait dire que si des conjoints de fait qui ne sont pas mariés, ont un enfant, à ce moment-là, ça donnerait ouverture pour le conjoint en cas de séparation, pour le conjoint à une espèce de patrimoine familial. Ça ressemble un peu au patrimoine familial comme on le connaît pour les gens mariés, c'est-à-dire que ça inclurait la résidence familiale, les automobiles puis les meubles. Alors, ça va être en 2025 que ça va se décider. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Il y a des gens qui me disent, « Ouais, mais là, il y a des filles qui vont se faire faire des bébés pour, avec une telle personne avec qui ils demeurent, justement pour accéder à ce type de protection-là en 2025. » Ben écoute, je ne pense pas que les filles se fassent faire des bébés pour obtenir cette protection-là, mais si ça arrive, c'est certain qu'actuellement, on a beaucoup plus de cas d'injustice de femmes qui ont vécu en concubinage pendant 7, 8, 10 ans avec un gars qui a fait des sous, souvent grâce à cette conjointe-là qui a eu des bébés, puis qui a sacrifié beaucoup de temps, puis des promotions, puis un certain enrichissement du fait qu'elle a eu plusieurs enfants. Et il y a beaucoup plus de cas d'injustice qui touchent les femmes actuellement dans des situations de concubinage que d'injustice qui touchent les hommes. Fait que, on s'attendait à ce qu'éventuellement il y ait un certain remaniement du régime des concubins, et maintenant ça s'en vient pour 2025. C'est pas encore en force actuellement, mais on nous parle là, de probablement juin 2025 où ça pourrait entrer en vigueur.
Parce que je me souviens, je pense que ça doit dater de quoi, 2010? Ouais, peut-être même avant
Lola.
Ça. Éric et Lola, sans nécessairement dire c'est qui. Là, c'était un homme qui était milliardaire, puis sa conjointe n'était pas mariée avec lui, elle vivait avec lui depuis des années, et ils ont eu 3 enfants ensemble. Puis je pense que ça a fini comme pension alimentaire de 34 000 $ par mois, la maison, la voiture fournie, des sommes d'argent pour payer les frais de scolarité des enfants, puis les voyages que ces gens-là devaient effectuer par la suite, parce qu'il ne vit pas juste au Québec, cet homme-là. Là. Donc, je pense que c'est ce qui avait fait beaucoup jaser à l'époque. C'était Jean-Marc Fournier, ça se peut-tu, qui était ministre de la Famille?
Ben,
lui, il était plus ministre de la Justice, Jean-Marc Fournier.
Oui, Jean-Marc Fournier l'a été, oui,
ouais,
ça voilà. Fait un certain temps.
Donc,
oui, il a été ministre de la Justice un certain temps, oui.
C'est lui qui était en place. Éric et Lola, ça a fait beaucoup jaser, puis ça a fait en sorte qu'il y a des gens qui se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas protégés. S'ils se séparaient de leur conjointe ou de leur conjoint. Donc, j'imagine qu'il y a eu des petites discussions dans les chaumières. Hein?
Oui, mais il y a 40 % des couples au Québec qui vivent en union libre. Ça ne veut pas dire que 40 % des unions conjugales sont en union libre, 60 % sont mariés. Ça veut dire qu'il y a des célibataires aussi. Il y a 40 % des couples qui vivent en union libre. Donc, c'est une nécessité. Et fallait bouger. Donc, ça a été assez bien reçu. Maintenant, on parle d'une modification à venir au niveau du Code civil. On parle du projet de loi 56 et ça pourrait ressembler un petit peu à certains conjoints qui seraient, certains biens qui seraient conjoints au couple. Si t'as un bébé, résidence familiale, meubles, véhicules automobiles, ça ferait partie de l'espèce de cellule où les biens seraient partagés à part égale au moment de la rupture de conjoint de fait, s'il y a un bébé qui intervient dans le décor. S'il n'y a pas de bébé, ben ça demeure, tout le monde demeure indépendant, mais s'il y a un bébé, ça vient changer la donne. Et on parle de mesures qui seraient applicables à partir du 30 juin 2025. On a encore le temps d'en entendre parler. Ça se pourrait que ce soit reporté, cet échéancier-là. Ça se pourrait qu'il arrive des changements au niveau législatif. Mais je pense que ce projet de loi-là a été assez bien reçu jusqu'à maintenant. Certainement plus que bien des projets de loi que le gouvernement a soumis depuis 2018. Alors, j'ai l'impression qu'on s'en va allègrement vers ce changement-là pour l'été 2025. Si vous n'êtes pas trop au courant de ce qui va se passer, bien, printemps 2025, les couples ou les gens qui vivent en concubinage, une petite consultation juridique, là, notaire ou avocat, c'est pas mauvais pour savoir exactement ce qui s'en vient, parce que je me souviens, quand le patrimoine familial avait été adopté, dans les années, je pense, 90, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés, gros gens comme devant, avec des modifications considérables de leur régime matrimonial. Alors là, vous ne vous avez pas d'excuses parce qu'il reste encore 14 mois.
Exact. Comme à chaque lundi, on a le plaisir d'être avec Maître Marc Bellemare de bellemareavocat.ca. On va faire une courte pause et on revient tout de suite avec Maître Bellemare. Marceau, le... Maître Marc Bellemare est avec nous comme à chaque lundi. Maître Bellemare, j'ai des questions à vous poser. Connaissez-vous le girofou sur les réseaux sociaux?
Non.
C'est un homme qui se promène avec un gyro, donc c'est juste une roue. Et ce bel appareil-là, ça a été inventé il y a de ça quelques années. C'est comme un unicycle, mais électrique. Et le gars se promène avec son kit de cuir, son gros casque de moto. Et ça peut aller jusqu'à 100 km/h sur les pistes cyclables ou encore sur les routes. J'ai eu l'occasion de jaser avec le gyro fou il y a de ça quelques jours, je dirais peut-être, mettons, deux semaines. Et lui, il m'avait dit que c'est un sport qui est en développement. Là, les gens, un sport et loisir. Dans son cas, à lui, c'est plus un gars qui va à l'extrême avec son fameux gyro-roue. Mais de plus en plus de véhicules électriques qui circulent sur nos routes, de véhicules électriques qui circulent sur nos pistes cyclables. Encore en fin de semaine, je pense que c'est un homme de 70 ans qui a malheureusement fait un accident avec son vélo électrique. La SAC, est-ce qu'elle va devoir se pencher sur ça? C'est sur ces nouvelles façons de se promener en ville?
Oui, il y a déjà des mesures qui sont en vigueur parce que un vélo électrique, là, c'est un véhicule. Un vélo électrique, c'est équipé d'un moteur électrique et non un moteur à essence qui est rechargeable, un guidon, un pédalier, deux ou trois roues qui sont en contact avec le sol. Fait que ton gars avec une roue, là, lui, il n'est pas dans la définition de la SAC, de la loi d'un vélo électrique. C'est le Code de la sécurité routière qui prévoit des règles particulières pour les personnes qui font du vélo électrique. Et entre autres, l'obligation de porter un casque de vélo. Alors, le monsieur qui s'est blessé en fin de semaine, là, hier dimanche, il n'était pas conforme à la loi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il serait dans de meilleures conditions s'il avait porté son casque cette fois-là, parce que je ne connais pas toutes les circonstances de l'événement. Mais c'est sûr que ça prend un casque. Puis je vais te dire une affaire, ça roule, ces maudits vélos-là. Là.
Ouais, c'est du 30-35 km/h. Pour ceux qui n'ont pas les vélos débarrés, il y en a qui font débarrer leur vélo, mais de bellement, ça peut aller jusqu'à 70 km/h.
Ouais. Moi, je fais du vélo de route, là, à pédale, là, pas de moteur. Là. Puis je vais te dire une affaire, quand je pointe 35 km/h dans une côte, là, ça voyage en tabarnouche. C'est sûr, quand j'avais 25 ans, ça me dérange moins. Aujourd'hui, je regarde comme faux. Avec les routes de marde qu'on a, puis les craques partout, puis le sable, puis l'eau, puis tout ça. Des fois, tu peux avoir des surprises si tu perds le contrôle. Alors, ça prend absolument un casque. Et tu peux circuler sur la voie publique, mais tu dois respecter les règles qui s'appliquent à tous les cyclistes. Pas nécessairement les règles sur la route, les règles comme les véhicules automobiles, mais les règles qui s'appliquent à tous les cyclistes. On sait qu'il y a des différences entre les véhicules et les cyclistes, là. Ça prend en cas d'accident, tu n'es pas couvert par le régime d'assurance automobile. Ça veut dire, le monsieur, en fin de semaine, il n'a pas frappé une auto. Il n'y a pas un accident qui implique un véhicule traditionnel. Si ce monsieur-là est entré en contact avec une automobile en mouvement, un gars qui sort d'un parking qui coupe le chemin, un gars qui rentre dans un parking qui coupe le chemin, une collision, il rentre sur le côté, un contact quelconque, ou bien le monsieur avec son vélo électrique essaie d'éviter une automobile qui coupe le chemin, même s'il n'y a pas de contact, au moins l'automobile a joué un rôle dans l'accident, ça devient un cas assuré par la Société de l'assurance automobile. Si tu te blesses, tu as le droit d'avoir les indemnités, comme tous les accidentés de la route. Mais si c'est juste ton véhicule, ton vélo électrique qui est responsable parce que tu as pogné une craque dans le chemin, parce qu'il y a un autre vélo qui t'a coupé le chemin, parce qu'il y a un piéton qui t'a coupé le chemin, parce que tu as fait une fausse manœuvre et tu es tombé, même si tu es sur la voie publique, tu ne seras pas indemnisé comme accidenté de la route. Alors, le monsieur, en fin de semaine, là, il n'y a pas de cause. S'il y a des blessures ou s'il décède de l'accident, il n'y a pas de cause pour obtenir une quelconque indemnité de la part de la Société de l'assurance automobile.
Même si...
Et normalement, pour conduire ce type de véhicule-là, il faut être âgé de 18 ans.
Oui.
Toutefois, des personnes de 14 à 17 ans qui détiennent un permis de la classe 6D, les cyclomoteurs, sont autorisées à conduire un véhicule électrique. Okay. Alors, il y en a beaucoup des jeunes, 14, 15, 16 ans, qui ont des véhicules électriques, mais c'est parce qu'ils ont suivi un cours, ils ont eu un minimum de formation, là, et ils ont obtenu un permis de la classe 6D qui est attribuable au cyclomoteur.
Mais dans le cas de cet homme-là, Maître Bellemare, bon, il est dans un état critique actuellement. Là. On n'a pas eu de nouvelles à savoir s'il va survivre à ça. si jamais on dit, bon, ben, c'est un véhicule qui est arrivé au travers de son chemin, il a donné un coup de volant, puis il est rentré dans la chaîne de trottoir, puis il s'est fracassé la tête, même si faut qu'il y ait un impact avec le véhicule?
Pas nécessairement. Ça peut être en autant que le véhicule a joué un rôle, le véhicule automobile. Par exemple, j'ai eu un cas, moi, ici, au bureau, où l'individu se promenait en motoneige sur la voie publique. Il était sur le bord, là, mais il était sur un chemin de campagne à Saint-Jacques, à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. C'était assez à la brunante. Là. Il devait être autour de 4 heures en hiver. L'individu s'est promené sur le côté. Puis à un moment donné, il est arrivé un véhicule à haute vitesse. Puis il a voulu éviter le véhicule avec sa motoneige, puis il a poigné une espèce de butte, puis il a sorti de son. Il a été éjecté de sa motoneige et il a été blessé gravement. Alors, la SAC a dit non, il n'y a pas de véhicule impliqué parce qu'on n'a rien sur le rapport de police. Alors, il est allé en cours, il a témoigné, puis il a dit voici ce qui s'est produit. Le véhicule s'en venait de telle couleur, de telle allure, puis le juge l'a cru. Il a dit effectivement, je n'ai pas de raison de ne pas croire ce monsieur-là. Il y a un véhicule automobile standard qui a provoqué l'accident, même s'il n'y a pas eu de contact. Alors, s'il y a un contact, c'est clair que c'est assuré, mais s'il n'y a pas de contact, ça devient peut-être un petit peu plus difficile à croire, surtout si le dossier hospitalier, puis le docteur, puis s'il n'y a pas de témoin visuel, ça devient peut-être un peu plus difficile parce que c'est juste le tribunal administratif du Québec qui peut entendre ton témoignage comme victime et renverser la décision de la SAC en disant « oui ». Tu m'as convaincu comme victime qu'un automobile avait provoqué l'accident. À ce moment-là, tu vas être indemnisé comme toutes les autres victimes. Le contact n'est pas nécessaire, mais s'il n'y a pas de contact, évidemment, ça devient une question de crédibilité. Puis souvent, ces cas-là vont être acceptés, mais si tu vas un petit peu plus loin que la SAC, si tu vas en appel d'une décision de refus de la SAC, parce que la SAC a tendance à refuser toutes ces réclamations-là en disant « ben là, on n'a pas de preuve qu'il y avait un char, on n'a pas de preuve que, tu sais, comprends-tu, ta motoneige n'a pas été brisée par un véhicule automobile, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de témoin. La SAC, quand c'est pas clair, refuse. Mais tu peux contester dans 60 jours la décision de la SAC.
Et comme on est en motoneige sur la rue, puis on est immatriculé, vous m'avez toujours dit, Yann, même si tu es immatriculé, la SAC, elle n'interviendra pas dans ton dossier si jamais il y a un cas d'accident, c'est ça?
Oui, puis c'est le grand, c'est un vol public, à mon avis, indéniable. La SAC cotise les motoneiges. Les motoneiges sont plaqués même s'ils ne vont jamais sur le chemin ou à peu près. Ils font juste traverser les routes, hein, là où il y a des sentiers.
Ouais.
Et très rapidement, ils ne peuvent pas circuler. Tu ne verras jamais une motoneige faire Québec-Montréal, c'est à 40. Mais tu vas avoir une motoneige à un moment donné qui va pouvoir traverser un chemin public. Et c'est pour ça qu'ils sont immatriculés, mais il n'y a aucun droit aux indemnités. Et les deux, il y a deux VTT là, hier qui se sont frappés, là. Il y a un accident, deux VTT qui se sont frappés.
À Portneuf.
Ils étaient plaqués tous les deux, certainement, parce qu'un VTT, tu es obligé de plaquer ça. Tu es obligé de payer des droits d'immatriculation à la Société de l'assurance automobile. Sans ça, tu peux pas circuler, même si c'est sur des trails dans le bois. Alors, la SAC empoche un chèque, encaisse un chèque pour immatriculer le VTT, mais ne donne rien en retour. C'est ça qui me choque. Il donne rien en retour parce que tu n'as pas de protection d'assurance. Si tu as un accident en VTT, deux VTT qui se frappent, il n'y a personne qui est indemnisé alors que ces gens-là sont blessés gravement. Les VTT, là, ça brise des colonnes, c'est des traumatisés crâniens,
ouais.
C'est des commotionnés, c'est très souvent des gros accidentés à vie. Les gens pensent qu'ils sont couverts par la SAC parce qu'ils ont une plaque,
mais, ça,
mais ils ne sont pas.
Ça sert
la SAC,
à quoi?
Elle ne dit pas trop fort.
Ça sert à quoi, la plaque d'immatriculation? Ou simplement à nous identifier?
Ça sert à ramasser de l'argent, puis à identifier, puis à classer dans les paperasses et dans les ordinateurs de la SAC quand ils marchent, évidemment. Donc, c'est ça. C'est un des problèmes qu'on a. Moi, je suis régulièrement consulté par des gens qui sont blessés en VTT, en trois-roues, en motocross, en motoneige. Et ces gens-là sont à l'hôpital pendant 3 mois de temps, brisés, la colonne fracturée. Des fois paraplégiques, ils n'auront jamais droit à quoi que ce soit du côté de la SAC.
Donc ça prend une assurance.
Ils ont toujours prétendu pendant des années qu'ils étaient protégés parce qu'ils payaient des plaques. Alors, Mais le gouvernement ne fera jamais de publicité pour dire on ne vous couvre pas les motoneiges parce que là, il va y avoir une levée de bouclier. Les gens vont dire on se fait fourrer. On paye X centaines de piastres par année pour des plaques alors qu'on n'a absolument aucune protection d'assurance. Ça ne donne pas de payer des plaques.
Oui,
On peut se poser la question.
ça prend une assurance vie personnelle, une assurance salaire aussi. On n'a pas le choix.
Oui, puis c'est une assurance à laquelle les gens sont portés à ne pas, sont portés à ne pas recourir. Mais je te dirais que le petit gars de 8 ans, là, qui va être éjecté d'un VTT, là, lui, il n'a pas le droit d'être indemnisé non plus. Là. Puis, il va peut-être pouvoir poursuivre, par contre, le propriétaire du VTT s'il a fait une fausse manœuvre, parce que la SAC ne couvre pas ces cas-là, mais tu as quand même des recours civils si jamais le conducteur est pacté ou qu'il fait une fausse manœuvre. Mais en même temps, les tribunaux considèrent de façon générale que quand tu acceptes d'embarquer avec quelqu'un sur un VTT, tu assumes un certain risque parce que ce n'est pas des véhicules qui circulent sur l'autoroute là, avec quatre portes, quatre roues, là. C'est des véhicules qui sont à risque. Et quand tu embarques avec quelqu'un sur un VTT, ben, tu assumes une certaine partie du risque. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de recours. Mais ça veut dire que ça va être plus difficile de réussir parce que le juge va considérer que tu as assumé une certaine part de risque en embarquant sur un véhicule qui se promène dans un trou, dans une boîte, puis dans une branche, puis qui est beaucoup moins stable et beaucoup moins sécuritaire qu'un véhicule traditionnel.
Merci pour vos bons conseils, Maître Bellemare. Je pense que je vais rajouter quelques petites assurances à ma vie puis celle de mes enfants aussi, parce que mes gars font du VTT, puis j'étais persuadé qu'ils étaient assurés. C'est des petits VTT électriques, là, mais j'étais persuadé qu'ils étaient assurés. Mais non, vous me dites que non, pas du tout.
Ils ne sont pas assurés par l'État, par la SAC,
C'est ça.
malgré la plaque, malgré l'immatriculation obligatoire.
OK, Maître Bellemare pour des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNESST, c'est bellemareavocat.ca.
Absolument, n'importe quand. On va vous répondre, c'est jour et nuit. Vous allez sur notre site et vous pouvez nous poser des questions, puis on vous rappelle dans 24 heures tout le temps.
Allez vous prendre votre petite marche là après souper,
Oui, absolument. Il fait beau à part ça. C'est frisquet, mais maudit que c'est beau. Puis, si l'été peut venir, hein, quelques degrés de plus, comme on dirait,
Ça
ça serait
s'en vient.
apprécié.
Demain, on nous parle d'une température qui pourrait avoisiner les 16 degrés. Bonne soirée, Maître Bellemare.
Salut, bye,
Bye-bye.
bonne semaine.
Maître Bellemare qui était avec nous, on est avec lui à chaque lundi. Il sera avec nous lundi prochain dès 18h. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur les ondes de Boulevard 101. Et on se reparle demain, 11h, pour ce qui est de Marceau de midi. Merci d'avoir été là. Bye-bye.